France Inter. Le 18-20, Pierre Veil.
C'est l'heure du téléphone sonne. La souffrance au travail, le harcèlement moral dans les entreprises ou les administrations, c'est le thème du téléphone sonne. Après le jugement ce matin du tribunal de Paris dans l'affaire France Télécom, cette vague de suicides de salariés il y a 10 ans, 3 ex-dirigeants ont été condamnés pour harcèlement moral à 1 an de prison, dont 8 mois avec sursis et 15 000 euros d'amende. L'entreprise est condamnée à la peine maximale, 75 000 euros. Qu'est-ce qui a changé depuis cette affaire France Télécom? Les méthodes utilisées à l'époque ont-elles disparu en 2019 dans le monde de l'entreprise, dans les administrations? Quelle prévention possible? On attend vos témoignages, vos questions au 01 45 24 7000 et sur le site de l'émission franceinter.fr. Pour vous répondre, nos invités... Sylvaine Perragin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychothérapeute, consultante en ressources humaines. Vous avez publié « Le salaire de la peine » aux éditions du Seuil, un livre consacré à ses souffrances au travail. Sébastien Crozier est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Crozier, vous êtes président de la CFE-CGC chez Orange, entreprise donc qui a succédé à France Télécom en 2013. Et puis avec nous, Jean-Claude Delgène, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en organisation du travail, fondateur et directeur général du cabinet Technologia qui est spécialisé dans la prévention des risques liés au travail. Et je rappelle que vous avez publié aux éditions Le Cavalier Bleu, idées reçues sur le burn-out.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avant de retrouver les auditeurs au standard du téléphone sonne, un rapide tour de table. Votre réaction à ce jugement ce matin du tribunal de Paris, Sylvaine Perragin?
Ben écoutez, c'est un jugement extrêmement important dans l'histoire du travail, pour plusieurs raisons. Parce que la responsabilité institutionnelle a été engagée et reconnue coupable de harcèlement moral, parce que la personne morale a été condamnée, et que du coup ce ne sont plus les individus, et on ne reporte plus sur les individus la problématique, mais sur l'organisation du travail. C'est bien l'organisation du travail qui produit des souffrances, et c'est reconnu par la justice, donc c'est extrêmement important dans l'histoire du monde du travail.
Sébastien Crozier, président de la CFE-CGC chez Orange.
Effectivement, ce jugement est l'aboutissement d'un combat mené par notre organisation syndicale avec Sud, où nous avions déjà détecté dès 2007 un climat pathogène. Donc nous sommes extrêmement satisfaits. Évidemment, les peines sont assez faibles au regard de la catastrophe humaine qui a été produite. Première conséquence, Didier Lombard reste dans sa position de déni en faisant appel. Stéphane Richard, qui lui a succédé, accepte la condamnation de l'entreprise, reconnaît la culpabilité de France Télécom quand elle était dirigée par Didier Lombard et a décidé de ne pas faire appel, ce qui permettra d'avancer et de continuer à reconstruire l'entreprise.
Enfin, réaction de Jean-Claude Delgène, je rappelle, directeur général du cabinet Technologia, ce jugement du tribunal. Il y a beaucoup de courriels d'auditeurs, ils nous disent, mais est-ce qu'ils iront en prison, ceux qui ont été condamnés ce matin?
Je pense que c'est la bonne question. Déjà, premièrement, je suis moi très heureux pour les victimes et leurs familles. Je suis aussi heureux pour tous les salariés qui sont aujourd'hui dans une situation de turbulence due au changement imposé, souvent rapidement imposé, trop mal discuté. Cette décision où pour la première fois des dirigeants sont condamnés à faire de la prison. Alors, est-ce qu'ils feront de la prison? Normalement, ils pourront certainement y échapper, puisque en fait, il y aura peut-être des bracelets aux pieds ou des choses comme ça qui permettra à Monsieur Lombard, à son âge, de ne pas aller en prison. Mais c'est une condamnation. C'est la première fois qu'un capitaine d'industrie, hein, une des plus grandes entreprises françaises, est condamné, je dirais, à faire de la prison. Donc, ça, c'est effectivement une décision historique, et ça va surtout donner le la pour toutes les conduites de changement à venir. Et ça, c'est très important. Il va y avoir une décision jurisprudentielle, ça va inciter à la prudence, inciter à la pédagogie, inciter au changement concerté, à l'écoute des salariés qui subissent trop souvent des changements trop impérativement imposés.
Donc, vous voulez dire que les chefs d'entreprise, désormais, les responsables dans les administrations, vont y penser à deux fois avant de se lancer dans des pressions extrêmes sur les salariés.
Je pense qu'il va y avoir effectivement. Moi, d'ailleurs, depuis ce matin, depuis ce changement imposé par parce que c'est un changement au niveau de l'opinion publique imposé par la justice, j'ai déjà eu deux coups de fil dans ce sens de, je dirais, de personnes qui veulent instaurer dans leur entreprise des actions pour faire changer les choses.
Au standard, tout de suite, André est avec nous, il nous appelle. Bonsoir André, merci d'écouter le téléphone sonne. Vous êtes sur l'antenne et on vous écoute, vous êtes dans le Morbihan.
Oui, bonsoir. 25 ans comme cadre dirigeant, 15 ans ensuite comme prof, particulièrement de droit. Et avec mes nombreuses activités, je dirais que la pression au travail, elle existe depuis longtemps, de nombreuses années, et je l'ai connu. Mais ce qu'il y a où les gens interprètent mal, ce ne sont pas les actionnaires qui font pression sur les entreprises. Ce sont, comme disait Galbraith, ce sont les patrons eux-mêmes à qui on confie une mission et qui vont utiliser tous les moyens pour rentabiliser en faisant travailler plus les gens, en les virant. Et le meilleur exemple, je veux dire, je parlais de monsieur Pietraszewski, nouveau monsieur retraite, mais monsieur Macron l'a bien compris. Pression sur les services publics, pression entre autres sur les enseignants et sur le personnel de santé, c'est exactement la même technique. Et le meilleur exemple que l'on connaît actuellement, qui est tout frais, c'est monsieur Pietraszewski. 7 magasins au champ différents en 7 ans. Si vous voulez, c'est là où il y a le plus de pression. C'est dans la grande distribution. Qu'est-ce qu'on fait? Un patron, il arrive. Il va réduire immédiatement le personnel. Il va mettre des gens dehors. Il va avoir beaucoup plus de rigueur. Au bout d'un an, il est arrivé au but qu'on lui avait assigné. Et il est obligé de partir parce qu'il est complètement impopulaire. Il passe à un autre site, etc., etc. C'est la règle actuellement de notre système capitaliste et libéral qui fait que cette règle qui est appliquée au niveau de l'État maintenant, qui fait que la seule solution pour désendetter l'entreprise, pour rentabiliser le pays, oui, ou désendetter, André, c'est tout simplement de mettre la pression sur l'humain, sur l'individu.
Merci André de nous avoir appelé sur ce témoignage à l'instant d'André Jean-Claude Delgen. En gros, il dit il y a l'affaire France Télécom, mais ce qui s'est passé à France Télécom, on le voit encore aujourd'hui très souvent, même si ça ne va pas jusqu'au suicide.
Tout à fait. Je pense qu'il a tout à fait raison. C'est l'école. Depuis l'école de Chicago, il y a une trentaine d'années, l'entreprise est considérée comme un pur actif financier à part entière. Elle doit produire le maximum de rentabilité à court terme, et donc des plans se mettent en place qui sont appliqués coûte que goutte, avec des, je dirais, du reporting incessant. Les gens sont sous une pression énorme, ils doivent, je dirais, rentabilité, surengagement, ils doivent adopter une stratégie quasiment sacrificielle pour tenir leur emploi, pour ne pas être débarqués, et ça donne détresse, mal-être, souffrance, toutes ces vicissitudes qui ne sont pas capitalisées, parce que c'est la société qui les prend en charge. Quand, par exemple, vous faites un burn-out, vous partez 9 mois en arrêt maladie en moyenne, mais qu'est-ce qui prend en charge l'épuisement professionnel généré parfois par des temps de travail totalement dépassés? Eh bien, c'est la collectivité.
Sylvaine Péringin,
oui,
je rappelle,
alors,
vous êtes psychothérapeute, oui, oui, et consultante en ressources humaines.
Alors moi, en effet, j'ai les deux activités. À la fois, je reçois des clients, des patients en consultation particulière et je fais des audits dans les entreprises. Donc, j'ai vraiment les deux versants. Et André parlait de pression. Je crois que c'est un maître mot. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'écrasement du système de l'entreprise. On est passé d'une entreprise où on avait une culture de métier et où l'objectif c'était de travailler, à une entreprise où l'objectif ce sont les résultats. Donc si vous voulez, ça change tout, parce que la priorité n'est absolument plus la même, plus du tout la même, puisque l'objectif du résultat met l'être humain en dessous de cet objectif. Donc il est complètement écrasé par cet objectif et tout est à l'aune de cet objectif. Donc en effet, ça crée une pression extrêmement importante et ça crée la pression de quoi ? Dans tous les systèmes et dans tous les systèmes d'entreprise ou privés ou publics, c'est on veut toujours plus avec toujours moins de moyens, puisque la masse salariale est toujours le premier poste à être réduit. Donc le toujours plus avec le toujours moins, il y a un moment, même si les gens ont tout à fait compris que l'entreprise devait être rentable, je crois que plus personne ne remet en cause cet item, mais le toujours plus avec le toujours moins n'est plus vivable. Donc là, il est important de le comprendre.
Mais vous avez le sentiment qu'après cette affaire France Télécom, même si aujourd'hui encore il y a des pressions dans les entreprises, oui, pour obtenir des résultats,
oui,
les directeurs en charge se disent, bon, il faut faire pression, mais il y a une limite, il ne faut pas aller trop loin.
C'est le but.
Et est-ce que ça a changé ? Est-ce que les mentalités, selon vous, ont changé ?
Alors, depuis le début de l'affaire France Télécom, pas tant que ça, en fait, pas tant que ça, puisque tout avance lentement, si vous voulez. Et cette décision de justice est une étape dans cette avancée. Maintenant, ce qu'on constate et ce qui est très flagrant dans l'affaire France Télécom, particulièrement avec Didier Lombard, c'est l'écart qu'il y a entre ces grands dirigeants et le terrain. On voit bien qu'il ne comprend pas ce qui se passe et que je ne suis pas sûre qu'il ait toujours compris ce qui se passe. Et donc c'est cet écart-là qui fait aussi, qui constitue l'essence des décisions qui sont à côté de la plaque.
Sébastien Crozier, président de la CFE-CGC chez Orange, l'entreprise qui a succédé à France Télécom en 2013. Les choses ont changé chez Orange sous la présidence de Stéphane Richard. Aujourd'hui, il y a toujours la concurrence, hein, le monde des télécommunications, d'Internet, c'est un monde difficile, mais est-ce que l'atmosphère est respirable, si je puis dire ?
Je crois qu'il y a une question que personne n'a posée au final dans ce procès, parce que évidemment, il a été traité sous l'angle du passé, c'est-à-dire on a jugé les faits qui se sont déroulés, donc les faits de harcèlement moral. Mais la question qui s'est posée, qui s'est légitimement posée à nous en tant qu'organisation syndicale, en tant que partie prenante, les salariés sont aussi le deuxième actionnaire de cette entreprise, c'est combien économiquement cette crise sociale a coûté. Alors évidemment, on ne peut pas chiffrer les morts, le coût des morts, il est incalculable et les pertes sont irréparables. Mais d'un point de vue strictement économique, si les actionnaires se posaient aujourd'hui la question de savoir quel était le coût de la gestion de Monsieur Lombard, ils seraient effrayés de constater qu'on oscille entre 8 et 12 milliards de coûts et de dégâts résultant d'une politique sociale ultra-violente qui a conduit à une crise sociale, à une dégradation d'image, à des pertes de savoir-faire.
Pardonnez-moi, mais vous ne répondez pas à ma question. Les choses ont-elles changé chez Orange ? Y a-t-il aujourd'hui des dispositifs, des systèmes pour entendre la souffrance d'un salarié qui sent une pression ?
La première richesse de l'entreprise, ce sont les femmes et les hommes qui y travaillent. Stéphane Richard l'a compris. Il a introduit un modèle de management qui s'est inscrit en rupture avec la culture précédente.
De quelle façon ?
Il a d'une part mis fin aux pratiques de violence sociale qui étaient les mobilités forcées, les mobilités fonctionnelles, géographiques. Le fait qu'un manager ne pouvait pas rester plus de 3 ans au même poste, sinon il s'attachait à ses équipes et refusait d'obéir à la dictature du court-termisme et à la réduction des effectifs qui étaient imposés. C'était 3 mesures de violence sociale. Il a réinvesti dans l'humain, à la fois en réaménageant des lieux de travail, en organisant une socialisation, en redébloquant des budgets. Mais tout ceci a pris du temps et il a fallu plusieurs années pour retrouver une situation apaisée qui n'est d'ailleurs pas toujours complètement apaisée et qui fait que l'entreprise est extrêmement sensible à toute nouvelle pression exercée sur elle.
Des courriels sur le site de l'émission. Laurence, elle nous a écrit ceci. Je suis professeur dans un établissement privé sous contrat. La chef d'établissement impose au personnel des conditions de travail insoutenables depuis plusieurs années. Conséquence, je cite toujours ce courriel, ce mail de Laurence, conséquence de nombreux arrêts de travail, énormément de turnover. J'ai essayé de contacter tous les responsables, dont le recteur, mais aucune réaction. Vers qui faut-il se tourner pour obtenir de l'aide sur cette question ? Jean-Claude Delgène, je rappelle, expert en organisation du travail et fondateur et directeur général du cabinet Technologia, qui est spécialisé dans la prévention des risques liés au travail.
Alors, la question que vous posez est importante, c'est qu'en fait, nous n'avons pas de culture de prévention dans notre pays. Il y a une crise, tout le monde se mobilise, plus ou moins, peu ou prou, et puis, il y a des bonnes résolutions, on a commencé à mettre en place un plan d'action, et puis, quelques temps après, les bonnes résolutions s'en vont un peu comme l'eau dans le sable, et globalement, une urgence chasse l'autre, et en fait, globalement, on va revenir au point de départ. Et c'est le véritable problème. Dans toutes les grandes entreprises, on a un chaos organisationnel qui épuise tout le monde, en particulier ceux qui essayent de faire avancer les choses, les responsables les salariés, les médecins du travail et quelquefois le management intermédiaire. Et donc ça, il faut y remédier. Il faut mettre en place de vraies politiques de concertation avec un dialogue social très riche pour éviter de mettre les gens dans de grandes difficultés. Et là, effectivement, vous citez le cas, la personne, elle doit aller voir, effectivement, je pense, les délégués syndicaux, elle doit s'adresser, en fait, à la médecine du travail, mais je ne sais pas s'il y en a là où elle est, pour pouvoir, effectivement, montrer qu'elle subit des actes qui ne sont pas normaux en matière de conduite des hommes. Le vrai sujet, c'est ça, hein, c'est que il y a la question organisationnelle, c'est très vrai, ça a bien été dit, mais il y a aussi le rapport que l'on a avec son supérieur hiérarchique. Vous savez que c'est le premier risque psychosocial, c'est quand vous ne vous entendez pas avec votre supérieur direct, quand vous êtes en tension avec lui. Et là, c'est effectivement ce qu'elle raconte. Elle est certainement dans une situation difficile. Il ne faut pas qu'elle reste isolée. Il faut qu'elle trouve du soutien. Et ce n'est pas forcément auprès des institutionnels qu'elle va trouver du soutien. Il vaut mieux aller voir l'organe syndical du coin, peut-être même aller voir une UL du coin, enfin une union locale du coin, peut-être voir le médecin du travail qui peut la soutenir ou l'inspecteur du travail.
Sylvaine Perragin.
Alors, je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites, Monsieur Delgen, sur la culture de prévention. Et il n'y a pas de culture de prévention. On a beaucoup de discours en France, mais on n'a pas d'action. Et là où c'est la raison pour laquelle j'avais écrit ce livre, c'est parce que moi, ça fait 20 ans que je m'occupe de la souffrance au travail. Ça fait 20 ans qu'on parle de cette souffrance au travail. Des études, il y en a. Les causes, on les connaît. Et finalement, il ne se passe rien. Vous savez, il y a pas très longtemps, j'ai relu une étude qui avait été menée par le Sénat sur les risques psychosociaux en 2010. Mmh. Et qui avait été interviewé dans cette étude? Une DRH de l'époque de chez Danone, qui s'appelait Muriel Pénicaud, et qui disait quelque chose de très intéressant. Elle disait... écoutez, il faut absolument renforcer les pouvoirs et les périmètres d'action des CHSCT et les vraies décisions en matière de conséquences sur la souffrance au travail, elles se prennent dans les conseils d'administration et c'est là qu'il faut desserrer les taux financiers pour permettre aux équipes de travail d'avoir plus de moyens. Bon, alors ça c'était en 2010, vous voyez, donc comment se fait-il que dans ce pays, on n'arrive pas à mettre en acte une pensée qui est quand même connue depuis longtemps.
Alors, deux précisions, le livre que vous avez publié au Seuil, c'est le salaire de la peine, et vous parlez à l'instant des CHST, je traduis, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Voilà.
Est-ce que ces comités ont de véritables pouvoirs aujourd'hui pour aider les salariés qui sont en danger, qui se sentent sous pression? Je cite là plusieurs courriels qu'on a reçus sur le site de l'émission à propos de ces CHST.
Alors les CHST avaient un certain nombre de pouvoirs, mais ils n'en ont plus parce qu'ils n'existent plus.
Oui.
Donc ils ont été supprimés, et maintenant c'est le comité...
Social et économique.
À l'intérieur duquel...
Il y a la commission.
Oui, il y a possibilité d'avoir une commission de santé avec des pouvoirs qui sont réduits et un périmètre d'action qui est réduit.
Dites des pouvoirs qui sont réduits,
c'est-à-dire... Le CHSCT avait un certain nombre de pouvoirs, pouvait enquêter, pouvait prendre des décisions sur un certain nombre d'audits, le CSE moins. Donc, si on prend des décisions qui vont à l'encontre de ce qu'il faut faire, ça ne peut pas marcher.
Jean-Claude Delgen.
En fait, les CHSCT qui ont été créés, renforcés à partir de 82, ont permis en 30 ans de diviser par 3 le nombre d'accidents mortels en entreprise. C'est la première chose. Ils ont été supprimés avec les ordonnances Macron. Et en fait, ils ont été résorbés avec le CE et les délégués du personnel dans ce qu'on appelle le comité social et économique, le CSE. Le problème que nous avons, c'est quoi? C'est qu'on a divisé par, le nombre de mandats. On a perdu 50% des mandats. Vous avez actuellement en France 550 000 délégués du personnel. Il y a eu 50% des mandats qui sont tombés et 27% des effectifs qui ont été supprimés. Donc c'est quand même... Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous prenez l'usine de La Hague, qui est un de nos clients. Vous aviez à l'époque 34 délégués du personnel, toute organisation syndicale confondue, DP, CE, CHSCT.
Oui.
Avant la réforme. Il faisait un travail énorme sur une surface très étendue. Là, on passe de 34 à 9 titulaires, puisque les 9 suppléants ne siègent plus. Donc on perd en spécialité, on perd en proximité. Donc il va falloir faire très attention que les CSE puissent jouer demain le rôle qui leur est dévolu. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un problème, un trouble psychologique, un risque santé-sécurité, la solution c'est souvent dans les 10 mètres. Si vous n'avez personne dans les 10 mètres, si tout le monde est éloigné, l'affaire peut tourner mal. Et là, il faut faire vraiment très attention.
Dans le Val d'Oise, Valérie est avec nous, elle nous écoute, elle est au téléphone. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute,
alors,
vous êtes sur
l'antenne. Moi, je voulais témoigner sur la souffrance au travail dans les collectivités territoriales, donc dans les communes. J'étais moi-même, je suis moi-même dans cette situation. Je suis actuellement arrêtée pour accident du travail dans le cadre d'un burn-out. Ça a été très compliqué, d'une part, de me dire que j'étais dans cet état-là. Qu'il fallait que j'arrête. Ça a été très compliqué de le faire reconnaître. Ça ne l'est toujours pas actuellement parce que, en plus, dans les collectivités territoriales, dans la fonction publique, c'est l'employeur qui décide oui ou non si vous êtes en accident du travail et si la faute est bien imputable à l'employeur. Donc autant vous dire qu'avant qu'il accepte de reconnaître que c'est sa responsabilité, c'est très compliqué. Et si on ne fait pas attention quand on est cadre A dans la fonction publique, on a une telle pression de la part du directeur général et des directeurs généraux adjoints aussi, que si vous ne faites pas attention, vous reproduisez exactement la même chose sur les agents que vous dirigez.
Valérie, pour qu'on comprenne bien la situation, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment s'exerçaient ces pressions que vous n'avez pas pu supporter, puisque vous dites que vous êtes en arrêt maladie. C'est de quelle comment on fait pression, comment on vous pousse à bout?
Alors, de façon extrêmement sournoise, d'abord, on se rend compte que vous n'avez pas forcément les mêmes opinions politiques que la commune pour laquelle vous travaillez. On fouille dans vos mails perso, mais ça c'est jamais prouvable. Et puis ensuite, on vous met une pression, on vous retire peu à peu les équipes que vous dirigiez sous des prétextes tous plus fallacieux les uns que les autres, sous couvert de réorganisation. Ensuite, on vous met dans un placard, physiquement, pour de vrai. Dans la commune où je travaillais, ça s'est produit à 3 reprises avec d'abord des directeurs généraux, la directrice financière et puis ensuite moi. Et ensuite, la forme de pression aussi, elle arrive. Par exemple, vous arrivez au comité de direction et il y a l'ensemble des cadres qui est là et qui courbe les chines et qui ne dit pas un mot. Et puis le directeur général, comme à l'accoutumée, sur son portable. Et puis d'un seul coup, dit de toute façon, je vous préviens, je suis très mauvaise humeur aujourd'hui, donc je vais sortir la Kalachnikov et je vais canarder sur tout ce qui bouge. Autre forme de pression, c'est aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, je vais sortir la guillotine, les têtes vont tomber.
Donc ça crée
vocabulaire extrêmement méprisant à l'égard des collaborateurs, des gens qui travaillent pour la commune, voilà.
Et vous avez le sentiment que le but, c'est de vous faire partir, de vous faire démissionner ?
Le but, c'est de vous faire partir, c'est de vous faire démissionner, de vous faire taire et surtout de ne pas déranger l'habitude qui est installée depuis une trentaine d'années.
Et vous avez trouvé de l'aide quelque part ?
Alors, j'ai trouvé de l'aide dans une association auprès d'un syndicat, effectivement. J'ai trouvé de l'aide auprès d'un avocat. J'ai trouvé de l'aide auprès d'un organisme qui s'appelle la souffrance au travail, qui est dirigé par une femme extraordinaire dans le 78, qui elle-même m'a témoigné, parce qu'au début, vous culpabilisez. Vous vous dites, non mais c'est toi. Bon, il y a tout l'engrenage. Le sentiment d'être à la charge de la société, le sentiment de lâcher et de lâcher les agents que vous dirigiez, que vous laissez tomber en quelque sorte avant de péter un plomb complètement définitivement. Donc c'est oui, il y a eu ces gens-là qui m'ont beaucoup aidé.
Merci Valérie d'avoir témoigné ce soir sur l'antenne de France Inter. Sylvaine Péringin, une réaction?
Alors, deux choses. La première, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que décrit Valérie, ça dure pendant des années. Alors, c'est très, très long et c'est une destruction très quotidienne et que Valérie, j'imagine, et bien d'autres, en fait, veulent tenir. Ce ne sont pas des gens fragiles, contrairement à ce que disait d'ailleurs Monsieur Lombard, ce sont des gens fragiles. Ce ne sont pas des gens fragiles, ce sont les gens forts qui font des burn-out, parce qu'ils tiennent longtemps. Et comme ils tiennent longtemps, la chute est beaucoup plus difficile. Et que je voudrais mettre en exergue vraiment ce point, que c'est long et que c'est extrêmement destructeur. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des gens qui aiment leur travail. Ce ne sont pas des gens qui sont désinvestis. En revanche, au bout d'un an, deux ans, trois ans de ce traitement-là, évidemment, on est désinvesti. Et la troisième chose, du coup, ça fait pas deux, ça fait trois, c'est que ce type de management, qu'il soit intentionnel ou pas, est extrêmement toxique et confond deux choses. C'est la subordination qui existe, qui est institutionnelle et qui est dans le code du travail, et la domination personnelle. Et là, il y a une frontière qui normalement devrait être très claire pour les managers et qui l'est vraiment très souvent pas claire du tout.
Jean-Claude Delgen.
Oui, en fait, elle nous décrit très bien ce que c'est que le harcèlement. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le harcèlement ? C'est casser les gens pour qu'ils se cassent. C'est vraiment atteindre, alors par tous les moyens, ça peut être plus ou moins subtil, ça peut être plus ou moins violent, plus ou moins rapide, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment casser les gens pour les amener à partir de là où ils sont, pour les amener à se soumettre. Alors, sur la question de l'épuisement, je dirais sans être trop long, on voit bien que le travail est très important dans nos vies, c'est ce qui nous permet d'être avec les autres, le cordon ombilical avec la société, de gagner notre vie, d'avoir une identité professionnelle, mais aussi de nous accomplir, de faire un travail de qualité. Et lorsqu'on ne peut pas faire ce travail de qualité, comme manifestement c'est le cas qui nous a été rapporté, eh bien on en fait vite une maladie. Et très souvent, les gens sont dans une très grande difficulté parce que on les empêche de bien faire le travail. Qu'est-ce que veulent les salariés ? Tout simplement bien faire leur travail, avoir les moyens de bien travailler. Et là, aujourd'hui, ce que l'on peut constater dans les entreprises, c'est qu'il y a de très fortes tensions et qu'il y a beaucoup de problèmes liés aussi, on ne l'a pas suffisamment dit, à l'absence de dialogue social et y compris à la numérisation, à la digitalisation, qui met en difficulté un certain nombre de publics, en particulier les cadres les plus avancés, qui deviennent un peu plus en concurrence jour après jour avec les systèmes sophistiqués sur le plan électronique.
Mais justement, on a ce courriel d'un auditeur, Claude, qui nous dit, est-ce que les plus impliqués, les plus bosseurs, sont-ils en fait les plus fragiles face à des pressions de la direction ?
Non, ce sont des gens qui vont être fragilisés, qui ne sont pas fragiles. Ouais. On dit, il y a toujours un déni. On dit les gens sont fragiles. Non, les gens sont, du fait des modes de gouvernance, de l'absence de reconnaissance, de l'absence de soutien, de demandes, de charges de travail excessives, les gens sont fragilisés avec le temps. Ils ne sont pas fragiles au départ, ils deviennent fragiles, ce qui est très différent. Et là se pose la question de la réparation et de la responsabilité de l'employeur.
Sébastien Crozier, en entendant ce témoignage de Valérie, les pressions qu'elle subit, l'atmosphère qu'elle doit vivre lors de réunions avec des responsables de sa collectivité territoriale, vous êtes, je rappelle, le président de la CFE-CGC chez Orange. C'est fini ça chez Orange ?
Alors oui, bien sûr, c'est partiellement fini chez Orange, parce que là, on a deux types de harcèlement. On a le harcèlement institutionnel, le harcèlement qui résulte d'une politique organisée, en général cyniquement planifiée, et c'est ce qui a été démontré dans ce procès tout à fait exemplaire. Et après, on a un harcèlement managérial qui est volontaire, parfois involontaire, lié à un climat, une ambiance, une organisation. Mais ce qui est assez frappant dans ce que nous avons vécu et dans l'ensemble des contacts que nous avons eu, parce que en réalité, France Télécom est devenu un exemple, et donc nous sommes très sollicités par les administrations, nous sommes très sollicités par les grandes entreprises qui connaissent les mêmes phénomènes. C'est quand même deux facteurs qui se retrouvent de façon quasi systématique. Un, la perte du sens du travail. Et ça, là-dessus, il faut s'interroger sur ces questions de société, c'est-à-dire quel sens y a-t-il ? Et la perte de sens a été un des facteurs de l'accroissement ou l'aggravation de la crise sociale que nous avons connue chez France Télécom. Et puis, la deuxième logique, c'est la logique court-termiste du résultat qui fait que le chef ne sera plus là pour assumer les décisions qu'il a prises. Et nous avons besoin de retrouver un temps un peu plus long, un peu plus responsabilisant de ne pas avoir des gens qui changent tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Vous savez, c'est très impressionnant quand je vois les erreurs qui sont faites encore chez nous, quand je vois une DRH qui est embauchée alors que elle n'a pas les compétences requises, elle est numéro 2 des DRH chez nous, qu'elle vient d'un secteur complètement inconnu, qu'elle n'a jamais tenu un poste pendant plus de 2 ans, vous vous dites, mais que va-t-elle être en capacité de faire? Et donc cette espèce de logique court-termiste, alors elle va jeter quelques idées sur un papier, les faire exécuter, demander des résultats immédiats, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut retrouver une forme de temps long. Les transformations de notre monde qu'impose le digital sont importantes. Pour autant, il faut un accompagnement. Cet accompagnement doit être durable. Les managers doivent être jugés sur des logiques de temps long et pas sur des logiques court-termistes et exclusivement des critères financiers.
Sylvaine Péringin, rapidement, puis on ira au standard, il y a beaucoup de questions.
Alors, très rapidement, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Monsieur Delgen, sur la qualité qui me paraît absolument essentielle, c'est-à-dire et qui est liée au sens, à la perte de sens. C'est-à-dire, quand on privilégie la quantité et le résultat à la qualité, le résultat, c'est que les salariés développent une mésestime d'eux-mêmes, parce qu'on a besoin d'être fiers de ce qu'on fait. Et quand on fait que des choses de manière récurrente, de mauvaise qualité, parce qu'on vous demande toujours de les faire plus vite, toujours, 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 on finit par avoir une estime de soi qui est dégradée, sans compter qu'évidemment, on n'a pas la reconnaissance non plus de la structure. Donc, la qualité du travail, c'est pas un mot, c'est vraiment lié à la fierté du travail que l'on fait, et c'est lié aussi à la perte de sens, c'est-à-dire que ça n'a plus de sens de travailler.
Elisabeth est avec nous. Bonsoir, Elisabeth.
Oui, bonsoir.
Merci
bonsoir.
D'intervenir dans l'émission, c'est à vous.
Bien, écoutez, je vous remercie. Tout d'abord, je voulais une précaution oratoire, c'est que je suis extrêmement respectueux et respectueuse des dirigeants d'entreprise et surtout des syndicats qui travaillent souvent en binôme pour faire que les entreprises fonctionnent bien. En revanche, la vie d'entreprise, c'est quoi? C'est forcément du mouvement, du changement, des réorganisations, des restructurations, des plans de développement. Et ces directions-là et ces syndicats-là doivent composer aussi avec un troisième acteur dont on ne parle pas assez souvent, qui sont les fameux cabinets de conseil, qui accompagnent justement les directions générales dans ces plans de réorganisation et de restructuration. Et aujourd'hui, ce sont les premiers préconisateurs de méthodes qu'aujourd'hui on dénonce. Donc c'est à la fois un témoignage et un questionnement de savoir, pour vous dire qu'il faudrait peut-être remonter aussi en amont et prendre en compte tous les acteurs qui participent justement et qui
Elisabeth,
donnent leur avis, qui pèsent sur l'entreprise.
Ces cabinets conseils préconisent quoi, par exemple?
Par exemple,
la violence dans les mutations.
Faire tourner les managers, voilà, des cadres supérieurs, les faire tourner régulièrement sur des postes pour les maintenir en tension. Par exemple, c'est un très très grand classique du management.
Donc, ça,
forcément préconisé.
Donc, ce sont des cabinets conseils qui entretiennent, qui sont là pour promouvoir une sorte de souffrance au travail.
Souvent, eux-mêmes sont extrêmement conscients de ce que ça veut dire en termes de communication quand il y a une réorganisation, une restructuration, de parler de qualité au travail, de bien vendre le plan de réorganisation, de restructuration. Mais reste que dans les faits, les préconisations sont souvent des préconisations qui, justement, sont facteurs justement de ce mal-être au travail. Donc il y a un questionnement à prendre, en tout cas, un acteur à prendre en compte aussi dans cette réflexion-là.
Merci Elisabeth. Jean-Claude Delgen.
Oui, je pense que c'est tout à fait évident, c'est une bonne remarque. Dans les grandes entreprises, vous avez des dirigeants qui arrivent, Sébastien l'a très bien expliqué, vous avez des entreprises trop pressées qui mettent trop de pression sur des salariés pressurés. Comment la pression se met? Très souvent, on fait appel à des cabinets externes, ce qu'on appelle les Big Five, les Big Four, qui vont effectivement, d'origine anglo-saxonne, modéliser le changement, qui vont donner des éléments de langage, des éléments organisationnels pour entraîner soi-disant tout le monde. Mais très souvent, ces affaires-là tournent mal parce que justement, on coince, on sointe le dialogue social au sein de l'entreprise. Et il n'y a pas cette remontée d'informations, cette prise en compte du réel des salariés qui sont en grande difficulté. Vous voyez, par exemple, dans l'étude que nous avons fait sur Orange en 2009, lorsque nous avons conduit cette mission, on s'est aperçu que il y avait 25 000 personnes qui étaient avec un facteur de risque en détresse, 25 000 sur 120 000, et que simplement 30% dans les 5 dernières années n'avaient pas connu de changement. Vous voyez, ça veut dire que la grande majorité des gens avaient été amenés à bouger. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand vous bougez trop, quand vous avez trop de changements, quand vous n'êtes pas soutenu, quand vous êtes sans arrêt, je dirais, dans les turbulences, eh bien, ça devient très difficile à vivre.
Claire, un courriel. Je suis en burn-out depuis 14 mois pour cause de harcèlement dans mon entreprise. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Pourquoi pas de contrôle et d'obligation des entreprises quand les salariés tombent comme des mouches? Voilà, sur ce courriel, une réaction, Sylvaine Perringin?
Oui, alors malheureusement, c'est pour ça qu'on est content de cette décision de justice, c'est que malheureusement, il semble que seule la coercition fasse changer les choses. Donc, faudra-t-il arriver à ce que les préconisations que l'on met en place dans les audits des risques psychosociaux deviennent obligatoires pour que ça change, parce que moi, ça fait 20 ans que je fais des audits, ça fait 20 ans que je fais des rapports, que j'essaye le plus précis, le plus concret, le plus proche du travail réel possible, et je me rends bien compte, si vous voulez, que mon travail n'est pas toujours pris en compte.
Il y a beaucoup de questions, je les résume au standard, oui. Sur le fait, et la difficulté de fournir des preuves du harcèlement moral institutionnel.
Bien sûr.
Comment on fait?
Ah bah c'est très difficile.
Le harcèlement moral institutionnel, c'est très
compliqué.
Jean-Claude
Delgen.
Le harcèlement moral institutionnel est différent du harcèlement moral, individuel. Hein. Mmh. Pourquoi? Parce que le harcèlement moral, quand il y a harcèlement moral, l'auteur présumé des faits est en général en contact direct avec la victime. Tandis que le harcèlement moral institutionnel...
Qui a été condamné ce matin par le tribunal de Paris.
Et c'est un système qui, en fait, part du haut, se propage dans toute l'entreprise avec des méthodes telles que ça a été rappelé d'ailleurs par Sébastien, les mobilités forcées, les fermetures de sites, les arrêts de fonction sans préavis, la placardisation, etc. etc. Donc, ce sont des méthodes de management qui sont tout à fait condamnables, hein, et qui doivent être, encore une fois, poursuivies. Hein. Moi, je suis pour que là, on soit très dur. En ceci dit, dans certaines boîtes, ça se passe bien. Hein. Il faut comprendre que si vous prenez toutes les études aujourd'hui, je tenais à donner une note positive qui sont faites, 73% des Français considèrent qu'ils sont à peu près heureux au travail. Hein, donc, il y a par contre 25% à peu près qui sont vraiment très mal et il faut trouver des solutions.
Sylvaine Perringin, le mot de la fin, c'est pour vous. Il y aura un avant et après jugement du tribunal de Paris. Oui,
les choses vont vraiment changer. J'espère vraiment que ça fasse un point d'articulation comme prise de conscience des grands dirigeants, de se rendre compte que les décisions à haut niveau ont toute une cascade de conséquences qui peuvent être très graves.
Merci à nos invités. Sylvaine Perringin, Sébastien Crozier et Jean-Claude Delgen.